Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Bonjour à tous et bienvenue sur le 173e Comics Weekly, votre émission de critique hebdo de Comics US. Ce soir au programme, nous parlerons de Inhumanity, la grosse sortie de chez Marvel qui va lancer leur nouvelle bannière pour les mois à venir. Nous parlerons aussi de la suite d'Amazing X-Men, de Guardians of the Galaxy et bien sûr de l'event en cours Cataclysm. En indé, des nouvelles sorties avec notamment Terminator Salvation, Red Rover Charlie et enfin chez DC, Batman, Green Lantern, Earth 2 du classique. En fin d'émission, nous parlerons des TPB sortis cette semaine avec une grosse liste de nouveautés à se procurer d'urgence. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Moi cette semaine pour chroniquer ces nouveaux comics, nous avons Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et à tous.
Et ah bon, il est là ? Mister René Bunny.
Le mec qui fait chier pendant les intros. Ah bonjour, bonjour les gens.
Nous allons commencer par du Marvel avec la grosse sortie de la semaine. C'était une sortie attendue puisque ça lance la nouvelle direction de l'univers Marvel. C'est Inhumanity, un one-shot que va nous résumer Bruno.
Oui, tout à fait. Et c'est écrit par Matt Fraction avec au dessin Olivier Coipel. À l'ancrage, on a Marc Morales et à la couleur, Laura Martin. Donc, c'est un numéro oversize, qui fait 32 pages.
ça me fait toujours rire. Oversize, oui. 32 pages, pour moi, ça va tellement pas ensemble, quoi. Moquet grandi dans les années 90 avec les comics oversize de 80 pages, quoi.
Pour 4 euros, au moins, ils ont pas augmenté le prix. Ça, c'est déjà une première chose qui est pas mal. À noter également, sur les petits bonus. Le code digital qui est fourni offre également le premier chapitre de Wolverine Most Wanted. Donc il y a un petit bonus supplémentaire en plus dans ce numéro. Alors, de quoi on va parler ? On va parler des Inhumains, donc des suites de Infinity. Après l'explosion de la bombe tératogène, il y a tout un tas de personnes sur Terre qui sont rendues compte qu'ils étaient des Inhumains. Et ça sème un peu le bordel sur Terre. Et là, le point choisi pour ce numéro, c'est vraiment de voir à travers les yeux de Carnac comment est vécu par les Inhumains cet événement. Alors Carnac, c'est ce fameux Inhumain avec une tête d'ampoule qui fait de la savate.
et qui fait. Imagine quelqu'un qui connaît pas du tout le personnage, qui s'imagine une tête d'ampoule avec un mec qui a des chaussons aux pieds.
Voilà, c'est ça. Il fait de la savate. Non, mais il est super fort et il est super intelligent. Il voit un petit peu le futur. On rentre tout de suite dans l'action. Il est en train de faire des choses assez bizarres avec des squelettes dans New York et il y a les Avengers qui viennent pour essayer de parler avec lui pour voir un peu ce qui s'est passé et il commence à vouloir les savater. Donc là on se dit ah ouais putain il va y avoir de l'action et tout, mais en fait non, ça dure 3 pages et après en fait c'est vraiment Carnac qui est emprisonné par les Avengers et qui explique un petit peu ce qui s'est passé, quel était le plan de Maximus, est-ce que Black Bolt était au courant, qui sont justement ces Inhumains qui étaient cachés sur Terre et dont on ne connaissait pas l'existence. Donc il y a vraiment pas mal de flashbacks qui remontent même à l'époque préhistorique pour nous expliquer ce qui s'était passé justement avec les cris et tout quand ils étaient arrivés et compagnie. C'est marqué par une narration choisie par Matt Fraction assez lourde. Le personnage de Carnac, c'est un personnage un peu on va dire assez sage et du coup il s'exprime de façon un petit peu compliquée parfois, un peu trop circonvolu. C'est un peu compliqué. Mais c'est un peu chiant aussi, tu vas dire, Steve, c'est ça
Ça donne un côté pseudo-élitiste, mais j'insiste sur le pseudo, hein, voilà. Élitiste, et qui donne une narration très lourde. C'est volontaire hein, de la part de Matt Fraction, puisque c'est tout à fait raccord avec la caractérisation du personnage, mais c'est juste que c'est super chiant à lire, quoi. J'ai décroché 4 fois dans le truc, quoi, au moins.
Pour moi, c'est une énorme erreur que de faire un numéro comme ça pour démarrer Inhumanity, mais on va en parler après. Continue
C'est
Bruno.
ouais, donc après c'est on a quand même droit à des dessins qui sont plutôt corrects de la part d'Olivier Coipel. C'est pas son meilleur travail puisqu'il y a,
Ah
il y a
non.
quelques
Ah
pages
non.
qui sont un petit peu décevantes. Il y a peut-être aussi un problème avec l'ancrage par moment. Par contre, ça fait le taf pour expliquer aux gens qui connaissent pas trop les Inhumains qui sont d'où ils viennent. C'est pas très simplement expliqué, mais c'est quand même assez détaillé. Voilà, c'est assez sombre. À un titre, j'étais assez étonné par le côté très sombre de ce titre, avec un final dont on va pas spoiler la fin. Mais voilà, pour moi, c'était une lecture agréable malgré tout, même si je m'attendais peut-être à mieux.
Benny, justement.
Alors, franchement, il y a beaucoup à dire sur ce titre parce que déjà, moi, le truc, c'est que je m'en suis rendu compte tout au début de la review de Bruno, qui dit, enfin, je crois que c'est toi d'ailleurs, Steve, qui a dit ça, que c'était un one shot. Moi, je me suis tellement intéressé à Inhumanity depuis le début que je pensais que c'était le premier d'une série Inhumanity, le premier numéro d'une série. En fait, ce
Non,
sera
la
uniquement.
série c'est Inhumans. C'est
Oui.
vrai qu'en plus leur communication au départ avait été un petit peu bizarre parce que on savait pas trop si la série s'appellerait Inhumanity ou Inhumans. Ils avaient parlé un peu des deux projets, ils avaient un peu mélangé. Nous-mêmes, lors de l'annonce, la toute première fois du Weekly News, on avait un petit peu galéré, on n'était pas trop sûr du truc. Bon, depuis, on le sait, il y a la série Inhumans et il y a Inhumanity qui est la bannière, un peu comme on avait eu Heroic Age ou j'en ai pas d'autres, Dark Reign par exemple, voilà.
Oui, donc voilà, donc
Et c'est
déjà
ce
moi
qui va
j'étais un
donner
petit
le
peu.
côté point .inh quoi, qu'on va avoir
Oui, c'est ça.
tout le long du mois et en
On
mode
va donc
genre. Ouais.
avoir des points INH et des one shot qui s'appelleront Inhumanity, le prochain étant Inhumanity Medusa par exemple.
Ouais, bah déjà ça me lasse déjà d'avance, mais au-delà de ça, le truc c'est que moi les Inhumains, et pour beaucoup de lecteurs ça doit être pareil, c'est pas des personnages qui à la base m'intéressent. Donc là, il fallait que ce one shot Inhumanity nous fasse intéresser aux inhumains. Fallait vraiment qu'on se dise, bon, ok, ces personnages, on va en bouffer dans les mois à venir, autant que ce qui leur arrive, leur destin, etc. Ça m'intéresse et j'ai envie de lire la suite. Et là, très franchement, je peux pas dire que je sois tellement conquis parce que j'ai lu. Le seul événement qui m'avait bien plu autour des inhumains, c'était Silent War, parce qu'il y avait vraiment une histoire extraordinaire autour des inhumains. Et je m'étais dit, putain, les inhumains, quand même, ça peut être très bon. Mais là, honnêtement, bon, bah, voilà, au fait, Matt Fraction pose vraiment le problème. Donc, au fait, il nous explique à travers Carnac, ce qu'on sait depuis des mois avec les sollicitations successives, le problème actuel, les inhumains qui surgissent un petit peu partout dans le monde, comment on va gérer ça? On n'apprend pas grand-chose de nouveau au fait, mais il explique un petit peu la genèse des inhumains d'une manière tellement, c'est pas complexe, mais c'est pas forcément super abordable pour qui n'aurait jamais lu les inhumains. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un pour qui Inhumanity va être la première fois qu'il lit une histoire autour des inhumains, est-ce qu'il va se dire, oh mon Dieu, c'est génial, j'ai envie de lire à fond ces personnages et de les suivre pendant des mois par la suite. Je pense pas du tout. Franchement, je trouve pas que ce soit un truc, tu vois, qui te donne envie tellement d'aller découvrir ces personnages une fois que t'as lu Inhumanity. Et c'est ça le problème que j'ai eu avec cet épisode. Je me suis dit, un nouveau lecteur qui découvre vraiment ces personnages, bah franchement, c'est pas avec ça qu'il va avoir envie de les connaître et de se lancer à corps perdu dans le titre Inhumans et dans cet événement, quoi.
Non, et puis comme tu l'as dit, hein, l'origine est racontée, mais elle paraît beaucoup plus complexe, et c'est faussement complexe en fait, c'est ça le problème.
Tout à
C'est que quand
fait.
tu connais l'origine un petit peu des inhumains, tu sais que c'est faussement complexe.
Non, puis, enfin, voilà, il n'y a pas de personnages qui ressortent vraiment autour desquels tu as envie de t'attacher, quoi. Je veux dire, bon, il te parle un petit peu de tous les inhumains. Pour autant, voilà, tu vois Maximus, tu vois Black Bolt. Si t'as jamais lu ces personnages-là auparavant, est-ce que t'as vraiment envie de les connaître un peu plus après cette lecture? Moi, je me suis un petit peu ennuyé, alors même que je connais les personnages, donc pour des gens qui ne les connaissent pas, très franchement, je pense que c'est très casse-gueule que Marvel se lance là-dedans.
Surtout que les Inhumains, enfin, je veux dire, ils ont une longue histoire et très compliquée avec des séries relancées, arrêtées, enfin voilà, on en est à plein de volumes, ça n'a jamais vraiment fonctionné. C'est surtout des personnages de second plan qui marchent très bien pour un arc, pour un event même, hein, comme tu l'as rappelé avec Silent War. Ça marche très bien de ce côté-là, mais en tant que série régulière, ça n'a jamais réellement fonctionné très longtemps. Et bon, on a appris à les aimer entre guillemets, ou en tout cas apprécier ces personnages quand on les voit une fois de temps en temps. Je pense qu'on apprécie tous plus ou moins Black Bolt, ou en tout cas ce qu'il représente. Oui. Justement, la complexité de sa relation avec sa femme Médusa, le fait qu'il ne puisse pas parler, etc. Et là, la façon dont il est dépeint pour quelqu'un qui n'aurait jamais vu Black Bolt, il passe pour un gros con, le mec.
Oui, et il y a aussi tout un côté aussi dans cet épisode, c'est ce qui m'a dérangé aussi, le côté « ça va être énorme, il va se passer un truc incroyable, ça va être énorme, il va se passer un truc incroyable ». Mais on t'en dit pas plus, finalement. Donc c'est bien beau, on a là un auteur qui te dit « attention, je vais faire un truc extraordinaire avec les Inhumains, mais je vous en donne pas assez pour que vous soyez intéressés ».
En plus, le truc, c'est qu'on sait maintenant qu'on va devoir attendre avril pour peut-être voir le truc énorme écrit par Matt Fraction, à savoir le titre Inhumans, qui était peut-être un petit peu déjà dans l'idée du scénariste au moment où il a fait ce préquel un petit peu. Donc, c'est un petit peu frustrant.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça joue. J'avais pas ça en tête au moment de la lecture, mais c'est vrai que ça peut jouer. Bon, au moins, il aura le temps de poser tout Inhumanity avant de démarrer sur Inhumans. Mais on risque d'avoir un trou entre les deux. C'est un petit peu dommage. Moi par contre, la fin m'a surpris, clairement. Même si tu le sens venir sur les 2-3 dernières pages, tu te dis, ils vont pas aller jusque là, Il y a quand même un changement assez énorme pour un personnage emblématique, enfin emblématique en tout cas, qui a une longue carrière, et je trouve que je trouve assez couillu en fait de la part de Marvel.
Oui, et puis ça donne un ton vraiment très lourd en fait à l'histoire quoi. Tu dis.
Il faut ça pour vraiment démarrer un event comme ils veulent en faire un avec Inhumans quoi. Il fallait bien ça. Il fallait bien, j'allais dire un drame au départ supplémentaire pour un petit peu, lancer la machine quoi.
Ouais.
Mais pour autant, voilà, moi c'est ce que je me disais en lisant ça, Fraction, Quapel, on les a eus sur Thor, on peut pas dire des mois après que leur travail ait été mémorable et qu'on s'en souviendra tous et que ça va vendre des caisses entières de TPB. Très franchement, Fraction, je l'adore sur Hawkeye, mais sur un truc comme Inhumanity, comme Thor, etc., j'ai toujours un peu peur, et malheureusement, je me suis dit peut-être qu'il va y avoir un miracle, peut-être que ça va être très bon ce que je vais lire là. Bon, bah le miracle n'est pas arrivé.
C'est amusant.
Voilà.
C'est que sans plus, quoi. Le meilleur passage du comic, c'est quand il y a Hawkeye.
Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais.
C'est amusant. Comme il écrit très bien Hawkeye. La meilleure réplique, c'est ça concerne justement ce personnage.
Un des seuls moments de bravoure finalement est au personnage qu'il écrit en solo. Quoi. C'est assez drôle, effectivement. Mais bon, finalement. J'ai l'impression qu'on ressort un petit peu tous les trois quand même légèrement déçus hein, de ce démarrage.
Ouais. C'est mitigé. C'est pas mauvais. Hein. Ça fait le job quand même au niveau quand même de placer l'histoire, mais ça le fait peut-être pas de la façon la plus efficace.
Est-ce que Marvel finalement n'est pas une meilleure accroche avec ses Point One comme ils ont fait, ou le Marvel Point One il y a de ça maintenant un an ou deux? Un an, je dirais. Et puis le All New Marvel Point One, où on a des petits bouts d'histoire et qui nous montrent différents coins de l'univers. Est-ce que c'est pas plus accrocheur pour un nouveau lecteur ?
Je suis pas d'accord, parce que je préfère quand même payer 4$ pour un truc 100% inédit que je vais pas retrouver après dans les séries que je vais suivre, plutôt que d'avoir un petit catalogue de previews, quoi.
Oui, non, mais attention, parce que Steve dit pour les nouveaux lecteurs, et moi je pense
que
pour un
nouveau
lecteur,
je précise, pour un nouveau lecteur,
t'aimes bien avoir plein de petits éléments comme ça qui
peut-être, parce qu'effectivement, quand je l'ai fini, je me suis dit, faut quand même s'y connaître un peu en continuité pour apprécier le truc.
Exactement, c'est ça
si
le problème.
Si on se met côté nouveau lecteur, peut-être que oui, c'est pas.
Et c'est là qu'est le paradoxe, puisque on gueule que à chaque fois c'est toujours trop abordable pour des nouveaux lecteurs, mais quand ça ne l'est pas finalement. On reste un petit peu sur notre fin. Bon, en même temps, c'est peut-être aussi le choix de la façon de le raconter là qui pose un peu problème. Mais je reviens juste sur ce que tu disais, un petit catalogue de previews. Finalement, quand on regarde le Point One où on avait eu notamment le Guardians of the Galaxy de Brian Michael Bendis, il n'y avait que cette histoire-là qui avait été complètement reprintée dans le zéro. Le reste, c'était des pages inédites qui le sont restées.
Ouais, c'est vrai qu'on a retrouvé dans les trades après, mais oui qui sont restées inédites en single. C'est vrai. J'espère que pour le prochain, ce sera également le cas.
Non, mais enfin, voilà. Jusqu'à quel point doit-on être dans la continuité? Et pour les vieux lecteurs, c'est un peu le problème. Est-ce justement un mauvais choix de scénariste?
Ouais.
Je crois qu'on laissera l'avis à chacun, mais je sais pas. Peut-être qu'écrit par quelqu'un d'autre, ça aurait été un peu plus digeste.
Moi, j'ai été étonné que ce soit Fraction, parce que le choix logique, c'était quand même Hickman qui avait lancé la machine, quoi. Et ça aurait été bien, peut-être, qu'il termine là-dessus en... Voilà, avec un petit one shot pour expliquer ce qui se passe côté inhumain.
Attention, réaction de Benny.
Non.
Ouais.
Ah, même pas, parce que je m'attendais à. Oh non, par Fraction, ça aurait été un peu ingérable. Mais non, même pas.
Non, pas forcément. Non, mais voilà, on peut avoir de bonnes surprises. Mais là, je suis globalement, je suis déçu, quoi. Je lui ai laissé le bénéfice du doute. Et bon, je sais pas. Franchement, j'ai un petit peu peur de ce qu'on va. Enfin, j'ai peur de ne pas m'intéresser à Inhumans. Et j'ai peur que aussi beaucoup de nouveaux lecteurs, ou de lecteurs en général, ne s'intéressent pas à cet événement sur lequel Marvel parie énormément, puisqu'il y a énormément de tie-in, énormément de choses autour de ça. Et finalement, le triste constat après avoir lu ce numéro, c'est que le sort des Inhumains, bah je m'en fous. Voilà.
On en parlait en antenne avec Steve, mais c'est vrai que sur Internet, je disais, il y a beaucoup de gens qui commencent à dire que Marvel met à fond sur les Inhumains pour... se passer en fait de la licence X-Men et peut-être introduire des personnages un peu comme les X-Men dans leurs films avec des mutants et tout qui apparaissent et pouvoir à nouveau jouer sur des gens avec des mutants avec des pouvoirs qui sont rejetés par la société et les utiliser dans leurs films. Et c'est peut-être pour ça qu'ils mettent les Inhumains autant en avant maintenant, parce qu'ils en ont encore la licence.
Et rappelons ce projet de film Inhumain aussi, hein, qui traîne dans les cartons, et on a des rumeurs de ce film là déjà depuis quelques mois maintenant.
Phase 3. Je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas. Franchement, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que... Enfin, voilà. Moi, je pense qu'il y a tout un travail à faire pour que les lecteurs s'intéressent vraiment à ces personnages. Et pour le moment, c'est un petit peu brut de décoffrage. C'est un petit peu... Écoutez, à partir de maintenant, ces personnages-là ont de l'importance, va falloir s'y intéresser, les gens. Oui, mais ça marche pas comme ça.
Mais justement, est-ce que les Inhumains auront autant d'importance que ça? Est-ce que c'est pas tous ces nouveaux Inhumains qui vont apparaître à pouvoir, donc ces espèces de mutants bis qui auront de l'importance par la suite? Et franchement, est-ce que les lecteurs arriveront à s'intéresser à de nouveaux personnages émergents avec des pouvoirs qui sont des mutants mais qui n'en sont pas finalement, et qui ont tous les défauts qu'ont les mutants, c'est-à-dire être rejetés par la société, etc., et être vus comme la lie du monde entier, mais sans être des mutants vraiment?
Ouais. Faudra voir dans 6 mois ce qu'il en est.
Mais ouais, démarrage en demi-teinte, hein, pourtant, grosse sortie de la semaine, mais...
Je regrette pas mon achat, comme je vous dis. Enfin, pour 4 euros, on a...
Oui, ah ben oui, non, c'est sûr.
Pas mal de pages, mais si je m'attendais à mieux.
C'est sûr. Au final, donc, on en sort un petit peu avec un goût doux-amer, j'ai
un
envie de dire.
Un goût doux-amer, ouais, mais ça reste quand même un petit bail, pour ma part.
Mais moi, ce sera qu'un check-it à tendance... attention, il faut que vous y connaître en Marvelverse. Oui, j'invente des nouveaux check-it. Benny.
Bah écoute, moi ce sera un check-it à tendance vert pomme, mais avec un petit goût mentholé
vert,
aussi.
Vert, mais le vert, V-E-R, quoi.
Non, mais plus sérieusement, oui, bah tout comme toi, hein, c'est vraiment quelque chose qui devrait un petit peu donner la tendance des mois à venir. Mais qui malheureusement ne s'adresse pas à tout le monde. Faut quand même avoir un petit bagage inhumain entre guillemets pour comprendre ce dont il retourne, quoi. Pour comprendre les vrais enjeux.
En tout cas, pour mieux apprécier les personnages, ouais.
Ouais, clairement.
Ouais. Alors bah justement, on est sur un truc, on va dire relativement complexe, et on va passer sur un truc beaucoup plus simple, en tout cas, au vu du scénariste, puisque il s'agit de Guardians of the Galaxy numéro 9, Benny.
Ouais, Brian Michael Bendis au scénario et Francesco Francavilla au dessin. Bah alors, on est encore dans Infinity, c'est-à-dire que Bendis
a
du retard. Voilà.
Mais il y avait
un
eu un
peu de
décalage, hein, faut le rappeler. Hein.
Ouais. Donc il te dit à la fin, faut voir le final d'Infinity. Là, en gros, bah, c'est les Gardiens de la Galaxie qui ont rejoint Abigail Brand dans sa base, là, du Sword, qui est en train de se casser la gueule.
Le pic.
C'est épique. C'est un petit peu de la baston. Graphiquement, c'est pas génial. Honnêtement, c'est un épisode super passable, quoi.
Moi, j'ai
été super déçu, moi, de Frank Cavilla ici, au fait. Je sais pas si ce que t'en as pensé par rapport à d'habitude, mais
ça reste assez fidèle à son travail, au niveau des couleurs, au niveau du de la mise en scène. Donc graphiquement, moi ça m'a plu. C'est vraiment plus le côté accessoire du scénar qui aurait pu être expédié en un seul numéro au lieu de deux, que je trouve un peu embêtant.
Alors, le feuilleton, le problème, c'est que Frank Avila, travaillant pas mal pour Dynamite en ce moment, on a vraiment l'impression de voir un comic Dynamite, quoi.
Peut-être,
ce qui est, ce qui est une critique sans en être une, parce que ces comics chez Dynamite sont très bons. Mais c'est vrai que pour du Marvel, d'un seul coup, on a l'impression de prendre du Dynamite en plus au niveau des couleurs, etc. Et ça fait bizarre d'un coup, je te trouve. Là, je le feuillette juste, hein, puisque je ne l'ai pas lu.
Ouais, non, mais moi, j'ai trouvé ça assez délavé. Assez terne, en fait. Voilà, vraiment assez terne, très froid. Bon, j'ai vraiment pas été conquis par l'aspect graphique.
Par
et
contre, il y a
puis,
des splashes de toute beauté, hein. Franchement.
Je sais pas. Enfin, moi ça m'a pas conquis. Et puis, bon, bah le scénario surtout, c'est peut-être aussi ça qui a joué énormément sur mon appréciation. Totalement passable cet épisode, totalement inutile. Alors, on nous colle Angela un petit peu. Mais là, on voit dans les crédits, hein, d'ailleurs, comment il s'appelle, notre ami Neil Gaiman, donc n'a pas participé à l'élaboration de ce numéro. Ça se voit tout de suite, puisque au fait, quand il est pas là, bah, on montre Angela, mais au fait, on ne la creuse pas, quoi. Rien de
rien de voilà. Sexuel là-dedans, bien évidemment.
Rien de sexuel là-dedans. Mais en tout cas, non, bah, déception, j'en attendais pas énormément non plus, mais voilà, rien à voir de ce particulier dans ce numéro, pour moi ce sera, enfin si on peut en arriver à la note.
Bah, à moins que Bruno ait quelque chose à rajouter peut-être.
Non, non, moi je vous l'ai dit, hein, je trouve que ce numéro était passable, je trouve que l'écriture de Bendis, il a tendance à faire passer un peu Star-Lord pour un mec encore dans les années 80, qui arrête pas de faire des références à tous les trucs des années 80, le mec il a pas beaucoup évolué quoi. Et après il y a 2-3 dialogues qui font mouche, mais... Voilà, je suis d'accord avec toi, Benny. C'est vraiment un truc, un petit check-it pour les complétistes d'Infinity.
Totalement, ouais. Donc, pareil, check-it. Check-it moins, même, on va dire, pour moi.
Tu disais, j'en attendais pas grand-chose, mais moi, c'est vraiment la question que je me pose. Hein. J'ai 2-3 numéros de retard maintenant sur Guardians of the Galaxy, parce que ça m'a vraiment cassé les couilles. Donc, autant arrêter. Hein. Je les achète toujours et je les lirai version trade pour Infinity. Et puis après, je verrai si. Si le premier numéro de Trial of Jean Grey va me séduire ou pas, mais j'y crois pas. Mais peut-on encore en attendre de cette série? C'est ça, en fait.
Pour l'instant, ouais, y a pas grand-chose dans cette série. C'est des toutes petites histoires.
Je veux dire, par rapport aux petites graines semées autour d'Angela, il y a quelques épisodes de ça, juste avant Infinity, juste avant les tie-in, il y avait matière à ce que ce soit vraiment intéressant. Et j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec ce personnage.
Mais moi, j'attendais plus de voir cette espèce de plan du père de Star-Lord,
oui. Ouais,
qui
exactement.
Avait l'air très intéressant, et
non,
qui
non,
finalement ne sert plus à grand-chose, j'ai l'impression, maintenant.
Les premiers épisodes étaient vraiment bons, je trouve. C'était frais, c'était fun. Après, ça s'est perdu. Bon, on va peut-être lui laisser le bénéfice du doute, c'est peut-être à cause des tie-in. Surtout que c'est pas un event à lui, pour une fois. Donc,
c'est quand même son tie-in qui a commencé, enfin son event à lui qui a commencé à foutre la merde et Joe Fultron en ramenant Angela, hein.
Ouais.
Et qui a fait qu'on s'écarte du plan d'origine.
Mmh. Enfin, on verra bien. Moi justement, c'est il y a quand même quelques éléments que j'aimerais bien voir développer qu'il a posé depuis et qui reste en jachère, quoi.
Richard bon. Ryder. Non, pardon.
Il fallait bien détruire le pic une troisième fois.
Oui, bah oui. Et personne ne va en faire mention comme d'habitude. On est habitué maintenant à ce que ça passe sous silence. Allez, passons à la suite. La sortie du deuxième épisode de Amazing X-Men, la nouvelle série de Jason Aaron, avec des dessins de Ed McGuinness ancrés par Dexter Vines. La suite de Quest for Nightcrawler, où on retrouve une partie des X-Men, notamment Storm, Iceman et Firestar, en enfer, tandis que Wolverine et Northstar sont restés au paradis. Voilà. Et donc en enfer, il fait chaud. Et donc pour Iceman, c'est pas cool. Parce que Iceman, il fond. Et ça, c'est quand même vachement drôle. Parce que plus le comic avance, plus le mec, il fond. Et plus il est dans un état déplorable. Et du côté
c'est
du
les
paradis,
extrémités qui fondent d'abord.
réponse dans l'histoire. Et puis
ça fait flipper les limites là. C'est t'as l'impression que tu racontes un truc des contes de la crypte. Tu sais. On dirait le gardien de la crypte.
Pour Storm, le problème est que en enfer il n'y a pas de climat, donc pas de pouvoir.
C'est ballot.
pas de vent, pas d'électricité, rien, pas de foudre. Pas de chance, quoi. Mais la ressource, on l'a déjà bien vu avec d'autres anciennes histoires, et justement, Jason Aaron réutilise le côté guerrière d'Ororo, qui est plutôt sympa à voir, avec une jolie scène où on a un œil qui vole, je vous laisse découvrir ça dans le comic en lui-même. Du côté de Wolverine et de Northstar, eh bien, eux, ils sont restés au paradis, comme je le disais. Ils continuent d'affronter les hordes de démons qui leur sont envoyés par Azazel, hein, tout comme ceux qui sont en enfer. Et justement, en enfer comme au paradis, ils vont avoir en face d'eux deux personnages de la culture populaire qui ont été grandement romancés par la suite. Je ne vais pas vous révéler qui c'est, à vous de voir, c'est très facile à découvrir. Hein. De toute façon, ce n'est jamais dit clairement, mais... presque, deux personnages bien, bien, bien connus de la littérature et de la pop culture en général. C'est pas une mauvaise idée, je trouve, Azazel, qui a trouvé des sbires, on va dire, à sa mesure. Un épisode qui est plutôt sympa, avec un Wolverine qui n'a toujours pas compris où il était, et quand il le découvre, ça lui fait mal. J'ai vraiment envie de voir la suite, personnellement.
Ça fait référence à son précédent passage en enfer, ou justement ou...
Non, pas du tout, pas du tout.
D'accord, parce que c'était Aaron aussi qui avait fait ça.
Pas du tout. Bah, en fait, sa surprise vient plus du fait qu'il est au paradis, parce qu'il ne s'y attend
d'accord.
pas.
Oui, ok.
Tout simplement, c'est vraiment quelque chose qu'il ne comprenait pas. Et puis, Nightcrawler va ne faire qu'une brève apparition sur la fin, mais donne vraiment envie d'aller voir le prochain épisode, parce que ce qu'il risque de faire sur l'épisode d'après, ça risque de cartonner. Donc franchement, un bon épisode, ça se laisse vraiment bien lire. Ed McGuinness, c'est très correct, c'est très solide. Donc non, franchement, moi je trouve cette série pour le moment assez fraîche, même si j'avais préféré quand même le premier épisode au deuxième. Ça reste vraiment bon, et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc j'ai envie de dire un petit bail, quoi.
Est-ce que tu penses que c'est le digne successeur du coup de Wolverine and the X-Men, vu que la série va s'arrêter
Trop tôt pour le dire. Vraiment trop tôt pour le dire, même si on sent qu'il retrouve un certain humour, il y a des petites blagues par-ci par-là qui font mouche.
Ce que je veux dire, c'est qu'il lâche pas la proie pour l'ombre, quoi. C'est honnête.
Ouais, non, ça va.
Après, petite news, mais Wolverine and the X-Men revient avec un autre scénariste, et ça va rester quand même centré sur les enfants aussi, mais en fait, le même ton.
Pour moi, c'était la meilleure idée de le faire changer de main et de donner le pouvoir à un autre scénariste de montrer ce qui se passe dans l'école. Maintenant, était-ce utile de faire un relaunch?
Oui, ça c'est encore la même question.
Mais c'est vrai que la série a dépassé les numéros 40, alors mon Dieu, plus personne va l'acheter parce qu'il y a trop de continuité.
Ça craint.
Putain. Comment on faisait quand on a démarré les comics et qu'on est arrivé au numéro 550, nous ? On s'est démerdé, hein. Enfin bon, et en plus il n'y avait même pas Wikipédia à l'époque.
C'est clair.
Bref. Autre temps, autre mœurs. Donc un petit bail, enfin même un bail pour ce Amazing X-Men 2. On va continuer avec l'event actuel chez Marvel, puisque même quand il n'y a plus d'event, il en reste encore, hein, même dans les univers parallèles. Cataclysm Ultimates Last Stand numéro 2, Bruno.
Oui, et c'est mon coup de cœur de la semaine. C'est écrit par Brian Michael Bendis.
Comme par hasard.
Avec Mark Bagley au dessin, donc l'équipe du Ultimate Spider-Man des débuts. Et j'ai eu l'agréable surprise de me rendre compte qu'en fait, c'est la suite officieuse de Spider-Man. Donc voilà, donc on en était à Cataclysm Galactus qui envahit l'univers Ultimate, qui commence à tout détruire.
J'ai quand même eu très peur que tu me dises « J'ai eu l'agréable surprise de me rendre compte que c'était la suite du numéro 1 !» J'ai très peur de là où tu partais.
De Spider-Man. Et donc en fait, Miles Morales essaye de battre Galactus, mais c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, il y a les Ultimates qui récupèrent Miles et ils s'enfuient parce que Galactus est en train de fabriquer sa machine pour détruire la Terre. Donc ils se cachent, les Ultimates, et ils essayent de trouver une solution comment battre ce personnage qui a l'air invincible. Et Tony Stark se rend compte qu'il émet des ondes qui sont proches de celles qu'il avait pu voir déjà lors de l'arc Spider-Man. Et donc il déduit que ce personnage vient de l'univers 616. Et donc il se dit, pour avoir des infos sur ce personnage, qui pourra me donner des infos? Et il pense justement à Mysterio, qui depuis Spider-Man avait été enfermé dans les geôles de l'univers Ultimate. Et donc voilà. Et là, du coup, ça, c'était vraiment très intéressant parce qu'on a la vie de Mysterio qui commence à expliquer Galactus qui il est, d'où il vient, quel est son pouvoir, est-ce qu'il a déjà été battu sur la Terre classique. Et les Ultimates trouve une solution pour peut-être battre ce fameux Galactus. Et là, on a droit à un super retournement de situation à la fin, un truc assez inattendu. Et vraiment, j'ai trouvé ça très très cool. Graphiquement, j'étais très déçu par contre par Bagley, que je trouve vraiment pas en bonne forme. Il y a beaucoup beaucoup de visages qui sont ultra mal faits. Ceux qui sont en arrière-plan, là vraiment, ils se foulent pas du tout. À côté de ça, malgré tout, ils se surpassent sur quelques splash pages, mais ça reste quand même assez moyen, on va dire. Mais en tout cas, au niveau du scénar, c'est un vrai plaisir. On découvre un nouveau personnage réinterprété façon univers Ultimate. Il y a de l'action, il y a du
Jusqu'à la
combat.
fin, ils vont nous en mettre des nouveaux personnages Ultimate.
Mais oui, mais il y en a plein encore à introduire, et là, celui qu'ils introduisent est pas mal. Donc vraiment une super lecture, et vivement le numéro 3, parce que ça annonce des choses intéressantes. Donc un
Alors,
gros bail.
moi j'ai quand même une petite question, enfin une question. Donc c'est plus une interrogation, quelque chose qui me gêne un petit peu dans ce que tu viens de raconter. Alors ne me dis pas si la solution est ça ou pas, parce que ce serait spoil, même si j'ai deviné, ne le dis rien, mais s'il s'agit d'aller récupérer l'Ultimate l'Unifier, comme ils ont fait les 4 Fantastiques la première fois, ce qui me gêne, c'est comment Mysterio peut savoir tout ça, en
Alors c'est
fait.
pas c'est pas ça qu'il va faire.
Oui, non mais enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est
Mais
comment
Mysterio,
Mysterio.
il sait des choses qui sont, enfin c'est normal qu'il sache ces choses-là. Il sait qui a battu Galactus, mais il sait pas comment.
D'accord, ouais, mais enfin, je trouve ça bizarre. Bon, ok, enfin, tout le monde a vu Galactus arriver. Enfin, je veux dire, tu peux pas le rater. Surtout qu'ils sont tous à New York, donc ils peuvent pas le rater. Effectivement, mais comment peut-il en savoir autant sur Galactus? Parce que, enfin, c'est pas vraiment la même cour, quoi.
Non,
Bon.
non, mais comme je te dis, c'est vraiment, il sait des choses,
Bah, non, mais j'espère que
pas
c'est bien
grand-chose,
raconté,
mais
justement. Ça me
peut-être
donne envie d'aller
l'essentiel.
voir au moins, en tout cas, pour aller vérifier si c'est pas Bendis qui a fait n'importe quoi,
Et
justement.
peut-être qu'on aura la réponse à ce fameux cliffhanger qu'on avait dans Spider-Man par la suite, parce que c'est pareil, ça c'est encore en suspens. Peut-être qu'ils vont aller là-dessus aussi, donc ça peut être cool.
Ok,
Un gros bail.
gros bail est ton coup de cœur de la semaine, hein,
C'est
Bruno.
ça. Voilà.
Terminons Marvel avec la sortie du 19e épisode d'Iron Man, Mister Ebony.
Oui, alors Kieron Gillen est au scénario et Joe Bennett est au dessin. Bah alors là, on aborde un nouvel arc où, au fait, Tony Stark va bâtir, enfin compte bâtir la ville du futur. Je sais, Starkopolis, je crois qu'il l'a appelé. Non, mais n'importe quoi. Iron Metropolitan, ça s'appelle cet arc. Je sais pas pourquoi je pense à Starkopolis.
Parce que Stark Technology, parce que les Starkphones, parce que tout, quoi.
Oui, parce que voilà, ça faisait plus mégalo. Je suis
Mais
surpris. Je suis surpris.
c'est vrai que Kieron Gillen monte d'un cran après Matt Fraction qui nous a montré comment Tony Stark développait un nouveau
Ouais.
réseau de communication,
Avec un
développait des
satellite,
nouvelles énergies
rappelle-toi.
propres.
Ouais.
Des nouveaux moyens de se déplacer, des voitures qui roulaient complètement toutes seules, etc. Et bien maintenant, une ville du futur, why not?
Alors, pour cela, il reprend en fait les ruines de Mandarin City pour construire sa ville futuriste.
Déjà, ça
Donc,
commence bien. Très bonne idée. Très très
voilà.
bonne idée. On sent pas du tout que ça va merder d'entrée de jeu.
Non, du tout, du tout. C'est vraiment nickel. Et du coup, comment dire, il est aidé dans sa tâche par son. Alors maintenant, on peut le dire, hein, c'est plus un spoiler. Son frère. Il a découvert qu'il avait un frère, le vrai fils d'ailleurs de ses parents, puisque Tony Stark a été adopté. Donc voilà, là, je viens de spoiler. Tout ce qui s'est passé,
C'était il y a 2 mois, hein. Faut se mettre à la
c'était il y a deux
page.
mois. Ouais. Enfin, il y a plein de détails à savoir autour de ça, hein, de toute façon. En gros, voilà la grosse actu brûlante d'Iron Man et pourquoi j'ai décidé de reprendre un petit peu cette série pour voir comment ça allait se passer. Alors, son frère, il est un petit peu comme Oracle maintenant, il a un petit peu un rôle de mec qui agit en coulisses et qui lui donne des indications pour qu'il arrive à mieux se débrouiller en tant qu'Iron Man. Enfin
Mieux
voilà.
que Pepper, on a carrément une personne.
Ouais,
Ben c'est
ouais,
son
ouais.
Pepper, son le truc qui est dans son armure, hein, bien sûr.
Ouais,
Enfin,
tout à fait.
son
D'ailleurs,
AI, Pepper.
la vraie est assez saoulée de voir que il a, enfin, il y a une espèce de voix féminine dans son armure qui lui donne des instructions. D'ailleurs, ça m'a étonné. Je pensais à cause des films qu'elle était déjà au courant de tout ça, et au fait, non, apparemment. Enfin, je sais pas. Ça m'a surpris à la lecture. Mais parallèlement à tout ça, donc il y a le, enfin. Les anneaux du mandarin qui sont bah c'est un petit peu la grosse promo au fait sur les anneaux des mandarins du mandarin et au fait ils se dispersent un petit peu partout et ils trouvent nouveaux preneurs un petit peu comme dans les gardiens des galaxies quoi les gardiens des galaxies n'importe
Green
quoi
Lantern.
Green Lantern bien sûr voilà et donc là il y a notamment une journaliste un petit peu zélée qui ça fait marrer Steve qui a récupéré un anneau et forcément ça se passe mal voilà bah, globalement, il se passe pas mal de choses, c'est plutôt sympathique, ça s'est beaucoup amélioré cette série depuis les premiers épisodes que je trouvais totalement indigeste.
Clairement.
Quelques bonnes idées.
Le premier arc est à vomir et le reste s'améliore.
Voilà, il y a de l'amélioration, il y a de bonnes idées, j'attends de voir comment il va développer tout ça parce que c'est super ambitieux quand même. C'est super ambitieux, donc ça peut faire un peu peur, mais bon, c'est... Du moment que c'est sympa à lire, voilà, c'est tout ce que je demande à un titre comme Iron Man qui est pas non plus censé être le titre ultime quoi de la gamme Marvel Now. Donc bon.
Comme d'habitude, tout dépendra si on lui laisse les coudées franches chez Marvel ou s'il doit ranger tous les jouets quand il va partir. Parce qu'il partira bien un jour d'Iron Man.
Ouais, on verra bien comment s'effectuera la transition. Mais non, mais très très honnête, moi je vais mettre un bail. Alors c'est pas le bail ultime, mais c'est un bon petit bail, un bail honnête. Faut toujours en ressortir.
On va passer maintenant à notre partie indé. On va commencer avec Bruno qui nous parle d'une nouvelle série qui s'appelle Red Rover Charlie. C'est chez Avatar.
Oui, voilà. Et c'est scénarisé par Garth Ennis avec au dessin Michael Di Pascal. Donc
Pascal.
C'est, Di Pascal. Ouais, c'est ça. Merci. Merci, Benny. Et,
putain, oh putain, ça y est, ça vient d'arriver là. Oh putain.
On prend le point de vue de trois chiens. Il y a Rover, il y a Red et il y a Charlie.
D'où le nom.
Exactement. Pendant une apocalypse en fait où les humains pètent complètement les plombs. On a l'impression d'être dans Crost. C'est-à-dire que les
publié
humains.
Publié par Avatar aussi. Hein,
exactement.
Pas.
Ils n'ont pas une croix sur la tête, mais ils commencent à faire des choses complètement débiles, à se foutre le feu, à se tirer dessus. Ils parlent plus de façon correcte. Ils se mettent de l'essence sur la gueule et ils allument tout ça. Enfin, ils s'entretuent. Ils se suicident par.
Enfin, ils s'amusent quoi. C'est des gens qui savent s'amuser.
Ils savent s'amuser ces gens-là. Et
une fête qui a dégénéré quoi.
Voilà. Et nous, on va suivre trois chiens, trois potes qui se voyaient dans le square quand leur maître allait les promener et qui discutaient, qui s'amusaient. Ils
on
ont
dit
chacun
un square
leur
en français en fait.
Son square. Et on.
ils ont, le square.
ils ont tous des caractères assez différents. Il y a un chien d'aveugle qui est toujours à vouloir aider les humains. T'as un petit un basset qui lui est plus à faire de tout le temps de l'humour et de l'ironie. T'en as un c'est j'ai l'impression c'est un épagneul qui est plus dans l'action et tout et qui agit tout de suite avant de réfléchir. Et on va les voir essayer de s'en sortir dans cette terre qui est partie complètement en couille. Alors, ce que j'ai apprécié déjà, parce que ça, au début j'ai pensé à We3, qui était pareil, vu du côté des animaux, un petit peu trash aussi. Là, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils écrivent les chiens avec, enfin, ils les font parler normalement presque.
Parce que dans We3, c'est le cas de Beast of Burden, hein, notamment.
Voilà, ou Beast of Burden, par exemple. Mais dans We3, je sais que ça m'avait beaucoup gêné parfois à la lecture de, parce qu'ils parlaient du chien-chien ou du chacha, enfin, tu sais, c'était un peu bizarre.
Ouais, ils étaient un peu robotisés, enfin, c'était l'explication
voilà.
Un peu facile.
C'est ça. Mais là, au moins, voilà, ils parlent normalement, on les voit communiquer, il y a pas mal d'humour, il y a un moment, il y a un chien, il panique, il fait, oh, sens-moi le cul, faut que je vérifie, c'est bon. Et donc, c'est drôle, quoi, mais.
Tu l'as fait vachement bien, hein. Je le voyais, là.
Voilà, après, je sais vraiment pas du tout où ça va aller ce titre, parce que est-ce qu'ils vont nous donner des explications, est-ce que ça va juste être suivre ces chiens dans cet univers, voir comment ils vont survivre, est-ce que c'est eux qui vont réussir à empêcher cette extinction de l'humanité, je ne sais pas. En tout cas, c'était curieux à lire, c'est plutôt joli, on va dire, c'est pas le comics de l'année au niveau des dessins, mais c'est assez efficace, les animaux sont bien représentés, mieux que les humains. Pour moi, c'est vraiment le petit truc curieux de la semaine, un petit check-it pour ce titre, voilà, qui est assez original, on va dire.
On va continuer avec de l'originalité là encore, puisqu'il s'agit du cinquième épisode de Trillium, scénarisé et dessiné par Jeff Lemire, avec des couleurs de Jeff Lemire pour la moitié du comic, la moitié basse, tandis que la moitié haute est colorisée par José Villarrubia. Alors, moitié basse, moitié haute, ça peut vous paraître étrange si vous n'avez pas ouvert l'objet. Une fois de plus, Jeff Lemire nous a fait une composition bien particulière, comme dans chaque épisode de Trillium. Alors, je rappelle qu'à la fin de l'épisode 4, tout explosait, et on finissait par une grosse page blanche, et on se demandait comment ça allait continuer. Eh bien, la réponse est dans ce cinquième épisode. Tout a changé, et tout est inversé. D'où le comic qui se lit dans les deux sens. C'est assez... Je veux éviter de trop spoiler, donc je reste assez cryptique. On va voir une première partie qui va suivre Nika, tout en haut, sur la moitié de la page. Il va falloir aller tout au bout du bouquin et le retourner ensuite pour relire dans l'autre sens, la partie basse donc de la page, et revenir jusqu'à la première page où on aura une autre histoire. Enfin, c'est véritablement un exercice de style, une fois de plus. On va avoir d'un côté Nika, bien sûr, et de l'autre côté William, qui vont découvrir une nouvelle réalité, grosso modo. Les choses ne se sont pas passées pareilles, la situation n'est pas du tout la même. Ils savent que les choses clochent. Une fois de plus, la mise en scène est vraiment très bonne. Les pages sont à l'exact identique, c'est-à-dire que la formation des cases que l'on va avoir en haut de la page sera la même que celle que l'on aura en bas. Les pages se font un petit peu écho l'une et l'autre. On a des scènes marquantes en haut et en bas au même moment, mais dans l'histoire, ça n'a pas la même portée. Enfin, c'est véritablement, encore une fois, un exercice de style, quelque chose à voir et à découvrir soi-même et à lire pour apprécier le travail qui a été fait une fois de plus. Là, on est sur un travail de symétrie, vraiment. Franchement, c'est véritablement une expérience. Moi, j'adore ce que fait Jeff Lemire dessus sur cette série. Je trouve ça toujours génial. Pour moi, c'est un gros bail. C'est mon coup de cœur de la semaine, bien évidemment. J'aime qu'on me surprenne comme ça, avec une histoire qui se renouvelle sans cesse, finalement. On ne sait pas où on va, mais on y va. Je sais,
je pense que à la manière de toutes ces phrases qu'on met au dos des bouquins, tu sais, des sites, divers sites d'internet qui traitent de comics
sur la cover,
Pierre, etc.
Je ne sais pas où on va, mais on y va. Comic City.
Voilà. Steve Bugler, ouais. Comic City. Je ne sais pas où on y va. Non, je ne sais pas.
Ça c'est très français en plus.
Je ne sais pas où on y va, mais on y va.
Ah putain. Donc voilà, gros bail pour ce cinquième épisode de Trillium. Il reste trois épisodes, trois, puisque c'est une mini en huit. Et j'ai hâte de découvrir la fin, d'arriver à la fin de ce voyage, et de voir aussi quelle surprise il nous réserve pour les prochains épisodes, puisque chaque épisode a une mise en scène différente. C'est aussi le petit plus de cette série, c'est de découvrir à chaque fois quel stratagème il va nous amener, enfin vers quel stratagème il va nous emmener en termes de storytelling, tout simplement. Donc ça se regarde, ça se lit, ça se dévore, et ça s'apprécie aussi pour son storytelling. On va continuer avec une franchise maintenant. Bruno, tu vas nous parler du premier numéro sur 12, je crois, de Terminator oui. Salvation.
Oui, c'est chez Dark Horse, c'est écrit par JMS, J. Michael Straczynski, qui travaille pas que chez Image en ce moment, et qui est aidé au dessin par Pete Woods, donc une équipe assez costaud, pour en fait une suite directe du film Terminator Salvation. C'est vraiment... Voilà, faut vraiment avoir vu Terminator Salvation pour apprécier ce numéro.
J'allais dire, faut vraiment aussi avoir aimé Terminator Salvation pour lire ça, oui. Parce que beaucoup n'ont pas accroché.
Tout à fait. Alors,
après,
voilà.
Justement, c'était un moyen de redresser la barre, peut-être.
Alors, moi, le film était, je l'avais trouvé correct. Je préfère même qu'il continuait l'histoire plutôt que de faire un remake et d'essayer de revenir tout en arrière. Là, en fait, on va vraiment s'intéresser au personnage du docteur Serena Kogan, qui était introduit, qui nous avait été présenté dans le film comme étant la personne qui avait fait des expériences sur le personnage de Marcus Wright, qui était un condamné à mort et qui du coup avait été, il y a eu les premières expériences faites en cybernétique qui étaient faites sur ce personnage. Ce docteur était soi-disant mort dans le film d'un cancer. Et après, c'était le gouvernement qui avait racheté ses recherches et qui du coup avait après créé la machine qui a du coup après amené à la destruction de la Terre. C'est un peu compliqué, hein. Et là, en fait,
Vive
on...
Skynet!
Voilà, c'est ça. Là, ça commence avec à nouveau des Terminators qui sont envoyés dans le passé. Alors, le truc très classique, ils sont envoyés en 2003, l'époque justement où cette chercheur normalement était censée être morte. Mais en fait, très rapidement dans le comics, on se rend compte quand on revient dans le présent, donc dans le futur en fait pour les personnages comme que sont Reese et puis John Connor,
Oh putain,
que en
ça devient
fait,
compliqué là.
ouais, que l'on s'est fait avoir puisqu'elle était encore en vie et qu'elle travaille avec les robots. Donc elle est vraiment contre l'humanité. Donc un personnage assez étrange. Et donc voilà. Alors il y a des Terminators qui sont allés dans le passé pour aller la re pour retrouver sa version passée. Enfin c'est très compliqué, mais c'est bien écrit.
C'est quoi cette voix d'un seul coup? Là, c'est passé, très
Voilà,
compliqué.
c'est un petit peu bizarre, mais c'est prenant, c'est très joli, esthétiquement j'ai trouvé ça vraiment classe. Je sens qu'on va se prendre pas mal d'action aussi, et puis ça fait plaisir de revoir les Terminators, hein, les T-800, les T-1000 et compagnie. Et là, on sait qu'on va les
Y
revoir
a-t-il
bientôt.
des TX, la meilleure invention de la franchise Terminator,
Et tout à
rappelons-le.
fait, il y a une Terminatrix. Ça commence déjà avec trois Terminators qui arrivent dans le passé et qui sont tout nus et qui bien sûr demandent des vêtements à des loubards dans un bar, donc le truc classique.
Pourquoi ça tombe toujours sur les loups-bars dans le bar?
c'est ça.
On dirait le début
Mais
d'une blague.
voilà. Mais moi qui avait pas trouvé le film si mauvais que ça, j'étais content de voir une suite en comics parce que je sais qu'on n'aura pas de suite en film. A priori, ils vont revenir plutôt sur les origines de Terminator, peut-être faire un vrai reboot si jamais il y avait des films.
Bah oui, faisons un reboot, c'est tellement plus facile.
c'est ça. Et donc. Très bonne surprise. Après, je suis un peu étonné que ce soit enfin, une maxi série en 12. Ça fait beaucoup peut-être, mais voilà. En tout cas, l'équipe artistique est solide et j'ai passé un bon moment. Donc, c'est un check-it et voilà. Je suis pas mécontent pour les fans de Terminator, hein, par contre, de ce quatrième film.
Et les connaisseurs peut-être un peu aussi.
Bah, les connaisseurs aussi qui ont envie de replonger un peu dans l'univers, bah, c'est voilà de tous ces Terminators et compagnie.
On continue avec Bunny qui nous parle d'un titre Image, c'est la suite de Velvet, le numéro 2.
Alors, Ed Brubaker est au scénario et Steve Epting est au dessin et Velvet, j'en suis totalement amoureux. Non, c'est
Devinez qui c'est?
devinez. Très mauvaise imitation, mais c'est pas grave, on aura compris. Non, mais on lui rend hommage ce soir vu qu'il n'est pas là. J'adore rendre des hommages aux gens qui sont pas là. Non, mais honnêtement. Bah je vais tout de suite le dire, moi c'est mon petit coup de cœur, alors un petit coup de cœur par dépit cette semaine, mais quand même, ça reste très sympa, c'est du bon Brubaker, du bon je viens de dire son nom et je l'ai oublié, Steve Epting,
Et
voilà.
petit, ouais.
Et c'est vraiment une Bucky au fait au féminin qu'on retrouve dans les pages de Velvet. D'ailleurs, j'ai fait le test, si vous raccourcissez les cheveux, vous obtenez la tête de Bucky.
Qui est
Puisque
Hawkeye, bien évidemment.
voilà, qui est Hawkeye. Non, mais sans déconner. Au fait, si tu regardes bien, elle a la même couleur de cheveux, avec la même mèche blanche que Bucky quand Brubaker l'a fait revenir. Voilà. Donc elle a vraiment un gros, gros, gros côté Bucky. Et comme Bucky, au fait, elle a traîné dans des, dans diverses missions plus ou moins extrêmes et plus ou moins qui ont plus ou moins bien tourné. Sa carrière d'agente secret, ou je sais pas comment le dire, mais a pris fin d'une manière un petit peu bizarre. Et là, au fait, son passé se rappelle à elle, puisque elle est accusée de choses qu'elle n'a pas commis, et elle doit essayer de s'en sortir, elle est seule contre tous, son agence essaye de la retrouver, enfin voilà, c'est vraiment l'espionnage, on est à fond dedans, quoi, dans ce registre, et c'est très bien fait, Brubaker est en forme, et puis voilà, quoi, il signe vraiment une petite aventure sympa. Alors, par contre, ça révolutionne pas forcément le genre ni ce qu'il a fait précédemment. On retrouve vraiment, enfin, si on est fan de ce que fait Brubaker d'habitude, bah, on va forcément aimer ça. Pour le moment, c'est moins, disons, original que Fatal, qui vraiment apportait quelque chose de plus à ce qu'il fait d'habitude. Là, on retrouve vraiment, voilà, c'est ce que je dis, bah, Bucky au féminin, quoi. C'est un petit peu puisqu'il n'écrit plus le personnage, je crois, chez Marvel, c'est terminé maintenant.
Oui, c'était
D'ailleurs,
Jason
elle bosse plus du
Latour
tout,
qui avait
d'ailleurs.
repris, et puis
Oui.
la série est terminée pour le moment, et elle va revenir sous forme de mini-série.
Oui, mais enfin surtout d'ailleurs, il est plus du tout chez Marvel actuellement. Et du coup, bah, j'ai l'impression qu'il fait un petit peu ce qu'il faisait chez Marvel, du coup, sur ce titre. C'est très bon, c'est très bon. Voilà, c'est très sympa. Donc, pourvu que ça dure. Je sais pas si ça va. Enfin, en tout cas, c'est bien parti, quoi, pour durer.
Donc, ton petit coup de cœur de la
Oui,
semaine.
mon petit coup de cœur un petit peu pas par dépit, mais disons que j'ai pas lu des choses qui m'ont fait vibrer énormément cette semaine. Donc et puis là je me rends compte qu'en fait que si finalement il y a peut-être autre chose qui aurait pu être mon coup de cœur après. Je me suis peut-être gouré finalement, tu vois. Bon, enfin c'est pas grave.
Ça
T'as un
reste un
gros
bail quand
cœur.
même.
T'as un
Ouais
gros
ouais.
cœur.
Oui, voilà.
C'est beau, c'est tellement beau. Terminons notre partie indé avec toi, Bruno, qui va nous parler de Burn the Orphanage numéro 2.
Oui, tout à fait, et c'est ma meilleure lecture indé de la semaine. J'avais beaucoup aimé le numéro 1, qui était une vraie lettre d'amour aux fans de jeux de baston de l'univers 16 bits. Il y avait un gros côté Final Fight, Street Fighter, et là on suit toujours ce personnage de Rock qui a réussi à tuer le
Qui a
boss.
déjà
Voilà,
un
c'est
nom
ça.
de personnage de jeu de baston, hein.
Exactement, c'est
Rock.
ça. Rock. Et alors il a tué le boss de fin dans le 1. Il a tué le chef de la mafia de sa ville. Il l'avait décapité. Donc, il lui avait fait une fatalité. Et donc là, dans ce numéro, il est tout content. Il a retrouvé sa copine. Il a son meilleur pote et sa meilleure pote qui sont avec lui et tout. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que il reçoit un jour la visite d'une nana un peu mystérieuse, genre magicienne, qui l'envoûte un peu. Donc il se retrouve à coucher avec elle, un peu à l'insu de son plein gré. Voilà. Et en fait.
Il y en a qui ont vraiment pas de bol, il y en a ils se font piquer avec des seringues fantômes et ils sont dopés et d'autres qui couchent avec des meufs quoi.
C'est ça, voilà. Et le lendemain, en fait, il reçoit une lettre, comme dans King of Fighters, lui disant qu'il a été invité à un tournoi sur une île et que
C'est énorme.
l'avenir de l'humanité est entre ses mains. Et là, en fait,
Excellent.
c'est le remake de Mortal Kombat, c'est-à-dire qu'il va devoir affronter les meilleurs guerriers de l'univers, mais de tous les univers, d'autres dimensions aussi, puisque le vainqueur de ce tournoi pourra accéder aux autres dimensions et régner sur le monde, donc façon Mortal Kombat. Et là, on a droit à des combats assez épiques, justement, où Rock affronte par exemple un homme mi-bouc. Alors, il y a une fatalité assez hardcore. Il lui fait, là, je m'y attendais pas, j'étais assez étonné. C'était très très trash. Et après, il y a des gros clins d'œil, pareil, à du Street Fighter, à Final Fight, à Dragon Ball Z aussi. Ça, ça sort de
Comment il
nulle part.
s'appelle le mec avec la tête de bouc?
Alors il s'appelle c'est limite Cabron, non Cabron ça veut dire bouc en espagnol et ça veut dire aussi bastard mais il s'appelle je retrouve ah je
Facebook.
retrouve plus Ramu Ramu
Ramou. Ramou.
ouais ben comme Ramu voilà et donc
Est-ce qu'il
non
est
mais c'est
chaud?
il est chaud Ramu oui. Non non c'est super classe même si j'aimerais pas être à la place de Ramu justement à la fin du combat et ben on se marre quoi il y a même des pages où on a carrément l'organigramme des versus et tout avec la tête des personnages qui se battent et tout c'est très frais c'est très amusant c'est un numéro un petit peu plus cher il est à 5 € mais par contre on a 42 pages de comics donc voilà c'était une trilogie j'ai oublié de donner les crédits honte à moi c'est écrit par Cina Grace et par Daniel Friedman avec au dessin, c'est Cina Grace qui dessine, et voilà, c'est prévu comme une trilogie qui va se terminer au printemps, en mars, avec un epic finally, il paraît. Et moi j'aime bien, c'est vraiment
Et
un
pas
titre.
un epic fail alors.
Et non, pas un epic. Bah j'espère. En tout cas, moi j'ai
Epic
vraiment beaucoup aimé
fail.
ce titre, et voilà, pour tous les amateurs de jeux vidéo, de baston, allez-y, jetez un œil, c'est très fun. Donc
Et
un
c'est
bail.
donc publié chez Image, hein,
Et
bien
c'est
sûr.
chez Image, ouais, chez Image.
Et justement, moi j'oscille entre putain, pourquoi j'ai pas checké ça, ça a l'air mortel, et est-ce que c'est pas un gros foutage de gueule quand même, quoi? Puisque bon bah ils reprennent vraiment tout, quoi, tous les scénarios de tous ces
Bah il y a
jeux-là.
les clichés, ouais, il y a les clichés, mais c'est bien retranscrit et
J'ai
voilà, moi
l'impression,
j'aime.
ouais, qu'on a une limite entre l'hommage et la fanfiction, finalement.
C'est ça, c'est ça.
Ouais.
Et non, vraiment très sympa.
Je profite de la partie indé pour signaler la sortie en Digital First chez DC de Scribblenauts Unmasked, A Crisis of Imagination, nouvelle série digitale de DC. J'ai checké, ça a l'air plutôt pas mal. avec un petit côté un peu Tiny Titans en fait dans la façon de d'exploiter les personnages. Bon, je l'ai pas lu complètement, c'est pour ça que j'en fais pas une review complète, mais le début a l'air sympathique et m'a fait plutôt marrer. On est un peu dans ce genre d'humour à la Tiny Titans. Voilà. On va passer maintenant à DC, justement, c'était le pont entre les deux, et bah c'est toi qui va commencer, Mister Ebony, puisque tu vas nous parler du Detective Comics numéro 26.
Avec John Lehman et Aaron Lopresti au dessin. Alors, John Lehman...
Aaron Lopresti.
Si,
ça
si,
fait longtemps que j'avais pas entendu son... Non, mais ça fait longtemps que j'avais pas entendu son nom, en fait, tout simplement.
Ouais, ben, attends, je vais quand même regarder à l'intérieur, parce que oui, c'est ça, c'est bien lui. Hein. Parce que quelquefois, ils mettent le crédit pour la cover, non, mais c'est bien lui. Donc John Lehman qui va bientôt passer la main.
L'arme à gauche, c'est ça?
Non, j'espère pas. Il nous faut encore la suite de Tony Chou. Après, oui, peut-être, s'il veut.
Salaud.
Non, mais donc Detective Comics va changer de main dans peu de temps. John Lehman aura fait un run qui finalement est vraiment demi-teinte. Il y avait quelques idées sympas, mais sans plus. J'ai été très 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 déçu. Alors que Greg Hurwitz fait un travail, par exemple, formidable sur comment ça s'appelle ?
Dark Knight.
Dark Knight, voilà. Qui est vraiment très bon, comme quoi il y a des auteurs qui sont plus à l'aise sur Batman que sur d'autres, n'importe quoi, qui sont plus à l'aise sur Batman et d'autres non. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas forcément parce qu'on s'appelle John Lehman et qu'on a fait un truc comme Tony Chou qui est génial qu'on peut forcément écrire un personnage comme Batman qui est vraiment très différent. Et donc voilà. Là, épisode assez classique. Des jeunes vont dans une grotte. Alors au début, ça m'a fait marrer parce qu'il y a un jeune qui fait voilà la Batcave. Donc je me suis dit, tiens, putain, c'est intéressant, peut-être qu'il y a des jeunes qui vont découvrir où est l'emplacement de la Batcave. En fait, pas du tout, c'est une cave avec des... enfin, une grotte avec des chauves-souris.
Il est encore avec les chauves-souris ?
Là, c'est au fait, il y a plein de chauves-souris super voraces qui dévorent donc ces jeunes. Batman enquête, il est aidé encore une fois par Langstrom, là, le Man-Bat. Voilà, on devine assez vite où ça va, tout ça. C'est vraiment pas super passionnant.
J'aurais été vraiment son thème, hein, parce que rappelle-toi, dans le fameux 900, il y avait toute une histoire avec justement Man-Bat et les différents.
Ouais.
Man-Bat ou Man-Bat, je sais pas comment, je sais pas où placer le pluriel.
Oui, mais il y a des personnages comme ça qu'il aime bien. C'est comme au début, il arrêtait pas de placer le pingouin un peu partout. Voilà, c'est pas les personnages les plus passionnants, disons. Une histoire de Man-Bat.
Il y a des trucs avec des ailes, donc.
Ouais, non, mais une histoire de Man-Bat, c'est un petit peu comme si on avait une histoire avec le lézard sur Spider-Man. C'est vraiment pas les histoires que je préfère, quoi. C'est les histoires toujours un peu classiques, ou... Enfin, c'est toujours la même histoire, quoi. J'ai l'impression de relire 150 fois la même chose. Donc là, au fait, si le danger ne vient pas de Man-Bat, de Kirk Langstrom, le danger vient de... voilà, on le devine assez vite quand on est un petit peu fan de Batman et de cette franchise. Un épisode vraiment sans... Voilà, sans plus. Avec une fin toute pourrie. Alors, un gag de fin, mais vraiment... tu sais, oh, la bonne blague. Je vais pas dire ce que c'est, mais c'est vraiment ridicule, quoi.
Aussi bon qu'un épisode de Batman avec Adam West.
C'est pratiquement ça, quoi. Je veux dire, la dernière case, j'ai pas compris, quoi. Si c'est l'humour de John Lehman, eh ben, il est meilleur en humour sur Chou que sur Batman. Voilà, bon, bah...
En même temps, je sais pas si on est bien placé pour parler d'humour.
Oui, non, mais en tout cas, bon. Écoute, voilà, ça. Bon, voilà, un épisode sans grand chose à en dire et à récupérer. Ce sera vraiment un tout petit check-it à la limite du pass. Disons que je mets un petit check-it parce que, comme tu dis, graphiquement, c'est sympa, mais bon.
Oh non, c'est juste, moi, comme j'ai dit, c'est simplement à Renaud Précis, ça fait longtemps que j'avais pas entendu son nom, tout simplement.
Il y a un petit côté, j'ai pas retrouvé son nom, c'est terrible. Le mec qui a fait
c'est
du Batman.
Ça.
Batman, Sympho, non, pas, non, un truc récent, avec justement Batman qui chevauchait des chauves-souris, un truc complètement absurde,
Je ne vois même pas de quoi tu parles.
Adams, non ? Il s'appelle pas
Adams.
Ah,
Denis Adams.
Attends, Denis Adams ?
Non, Neil. Neil.
Neil Adams.
Neil Adams, en fait. Voilà,
voilà. Ce que voilà, il a un petit côté Neil Adams. Bah, c'est tout ce que je voulais dire, voilà. Merci,
ouais,
maintenant
Neil
on peut
Adams,
passer à la suite.
C'est plus ce que c'était. Hein.
Ouais.
malheureusement. On va continuer avec Green Lantern numéro 26, qui est sorti cette semaine, scénarisé par Robert Venditti, avec des dessins de Billy Tan. Deuxième partie de cet arc qui fait suite à Lights Out et aux conséquences de Lights Out, c'est-à-dire Green Lantern, pardon, Hal Jordan, qui décide de bien reprendre en main le corps en empêchant tous les porteurs d'anneaux d'utiliser leur pouvoir afin de ne pas épuiser la source de tous les pouvoirs, relire Lights Out pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dise.
Ouais. Mais moi, c'est la franchise que j'ai complètement laissé tomber, et c'est terrible parce que je commence à avoir un putain de retard.
Et je suis à deux doigts.
Oui, d'accord. Ben alors moi, j'ai vraiment un retard d'un an peut-être sur cette franchise, et à chaque fois que je vous en entends parler, je me dis mais mince quoi, j'arrive plus du tout à comprendre exactement de quoi vous parlez à force.
Comme je le disais ces dernières émissions, pour moi le Green Lantern c'est véritablement les montagnes russes, et encore plus sur le titre Green Lantern en lui-même. Et bien là on est au creux de la montagne. Malheureusement, je n'aime pas cet arc, je n'aime pas la direction que ça prend, et je n'aime pas la caractérisation d'Hal Jordan par Robert Venditti, ce qu'il veut en faire. Il a le mérite d'essayer de faire changer les choses, mais je n'aime pas ce Hal Jordan tout en contradiction. Certes, c'était déjà un personnage tout en contradiction auparavant, c'est sûr. Mais là, enfin, c'est quand même complètement crétin. Il va, pour arrêter une porteuse d'anneaux, celle qui avait toute la planète qui était, on va dire, un petit peu ses suivants, hein, qui l'a vénérée comme une déesse en quelque sorte, et qui donc lui apporte tout son amour et renforce d'autant plus son pouvoir, puisque c'est un porteur d'anneaux violet. Eh bien, il va appeler tout le corps. Tout simplement. Mais j'ai bien dit tout le corps.
Ouais. Moi, ce qui m'a fait marrer... Pardon, non, c'est pas drôle.
Non, mais vas-y.
Non, t'as dit c'est un porteur d'anneaux violet, voilà, c'est tout. J'ai eu une drôle d'image pendant l'espace d'un instant.
Oui, effectivement, dit comme ça.
Alors que c'est pas drôle en plus. Non, mais
on
va pas se moquer de ces choses-là. C'est vrai que bon. Enfin, mais dans un podcast, on peut, voilà, parce qu'on est dans le voilà.
On est dans la gaudriole, monsieur.
Voilà, exactement.
Oui, mot des années 50, s'il vous plaît.
Ça trucule.
D'avant, en avant et en arrière, bien évidemment. Ouais. Bref,
la suite.
Non mais enfin voilà, j'ai à peu près tout dit, c'est-à-dire que voilà la contradiction d'Hal Jordan qui va faire appel pour arrêter une personne à tout le corps, c'est-à-dire 7200 lanternes.
Ah ouais, c'est un peu extrême.
Donc pour quelqu'un qui ne veut pas épuiser les ressources du spectre émotionnel, voilà. Alors certes, Hal va se rendre compte un petit peu qu'il est en train de déconner, mais ça l'inquiète pas plus que ça. Et je n'aime pas du tout cette caractérisation. Franchement, premièrement, je m'ennuie, je trouve ça très mal raconté. Les dessins de Billy Tan sont sympathiques, certes, mais il y a quelques pages qui, moi, franchement, m'ont laissé de marbre, voire m'ont fait trembler tellement c'est pas très joli. En même temps, si j'ai bien compté, il y a 5 encreurs, comme d'habitude. Hein, non, pardon, il y en a que 3 cette fois-ci. Pardon, 3. La multiplication des encreurs fait peut-être aussi que certaines pages sont moins bonnes que d'autres. Bref, moi je suis à deux doigts d'arrêter Green Lantern. Je prends plus mon pied sur d'autres séries comme Green Lantern Corps ou New Guardians. C'est quand même un comble.
Ah oui. Ah oui, non mais je pensais que t'étais à deux doigts d'arrêter la franchise, mais au fait.
Non, je vais continuer quand même parce que une ou deux séries m'intéressent, mais.
Alors quels auteurs s'en sortent le mieux finalement des auteurs récents de la franchise selon toi?
Charles Soule s'en sort très bien sur Red Lanterns, mais Red Lanterns. Entre nous, ce n'est pas la franchise Green Lantern à mes yeux, même s'il y a Guy Gardner, et même si le statu quo a changé récemment. Van Jensen s'en sort pas mal aussi, mais il est secondé par Robert Venditti. Donc Robert Venditti laisse sa patte. Alors, c'est bien qu'ils travaillent tous de concert, c'est sûr, mais j'aurais envie qu'ils jouent un petit peu plus juste pour faire une petite vanne. Travailler de concert, jouer un peu juste.
C'était...
Non, ce n'est pas une vanne, c'est un trait d'esprit, monsieur. Vous m'appelez le Raymond DeVos du podcast.
Non, mais on aime ici que les vannes graveleuses et trash.
Oh mon Dieu, quelle comparaison. Bref, franchement, très déçu. Ça commence sérieusement à me faire chier. Et je sais pas si je vais continuer longtemps.
Le mec m'énerve, tu sais, tout de suite après la vanne.
Non, non,
Oh
non, c'est, non,
bon,
non, c'est, non,
ça
franchement,
fait moins
ça
de
me fait
voix.
chier parce que, si tu veux, ça partait, le 21, donc la reprise du titre en main par Venditti partait plutôt pas mal. Tu te dis, ah, il y a du changement, il essaye de faire bouger les choses. Ensuite, pouf, grosse chute. Et jusqu'au crossover Lights Out, c'était vraiment pas bon. Le crossover Lights Out était, lui, très bon, avec une très bonne idée. Ce personnage de relique était très intéressant, c'était très bien mené. J'ai eu une lueur d'espoir d'un seul coup qui est retombée aussitôt.
Une lueur d'espoir dans Lights Out, franchement, c'est beau.
Donc non, check it moi. Check it moi. Voilà. À la limite du pass.
Sanction.
Continuons et terminons notre partie d'essai, ouais, sanction, ouais, je suis comme ça, avec
ouais.
peut-être un Green Lantern qui est meilleur que celui qu'on a actuellement. C'est, ça se passe sur une autre Terre, c'est Earth 2, Mister Millennium, le numéro 18.
Mais il est pas là du tout, le Green
Putain,
Lantern,
bah, vas-y, vas-y, ouais. Mais foire complètement la transition.
Très bonne transition, dis donc, bravo patron. Donc Tom Taylor est au scénario. Et Nicolas Scott est au dessin. Alors bon, les dessins de Nicolas Scott, franchement, je pense qu'on est tous d'accord, c'est très très bien, toujours très très bon. Tom Taylor, j'étais curieux de voir ce qu'il allait donner après James Robinson. Vous étiez, Sam et toi, très fans du travail de James Robinson sur Earth 2. Moi, un petit peu moins. Et Tom Taylor, eh ben, je le trouve génial. Voilà. Franchement, je trouve que c'est encore mieux, en tout cas moi j'accroche encore plus avec Tom Taylor au scénario à
il
ce
a de
titre.
L'avenir là parce que Injustice aussi c'est vraiment très bon ce qu'il écrit et...
ouais, ben, vraiment une totale surprise, qui est ce Tom Taylor, est-ce qu'il existe, voilà, pour les fans de The Unwritten ils comprendront mais
très bon, très bon, non très bon, j'avoue là vraiment très bon,
en tout cas plein de références à l'univers DC tel qu'on le connaît, mais avec des personnages évidemment différents. Il y a ce Batman de Earth 2, donc je pense qu'on sait tous qui c'est, hein, depuis quelque temps. Je sais plus quand est-ce que ça avait été révélé, mais l'identité de ce Batman. Je le dis ou pas du coup, parce que je sais pas
oui,
si.
Oui, non, mais c'est sorti. Enfin, ça a été dit. Oui. Il y a déjà plusieurs numéros, hein, donc
ouais, ouais.
Voilà.
Donc c'est bien sûr Thomas Wayne. C'est le Batman qu'on voyait dans Flashpoint, quoi, tout simplement. Et il y a plein de on retrouve vraiment plein de personnages super intéressants qu'on a d'habitude de connaître, de côtoyer dans l'univers classique, et là qui se retrouve dans une situation. En fait, c'est simple. Vous prenez Irredeemable et vous le transposez à l'univers DC et vous obtenez donc Earth 2 actuellement, puisque
alors ça,
Superman...
si c'est pas du compliment quand même.
Voilà, ouais. Superman a complètement pété les plans. Alors, c'est le seul bémol, quand j'ai abordé cette lecture, je me suis dit, franchement, avec Forever Evil en même temps, ça fait beaucoup de Superman déviant qui pète les plombs et enfin Superman déviant ou de Vittel, qui pète les plombs
oh,
et qui...
Oh là là, c'est trash, hein.
Qui pète les plombs et qui fout le bordel et qui tout le monde essaye de se liguer pour les arrêter. Il y a un côté Irredeemable à la fois dans Forever Evil en ce moment et dans Earth 2. Que ça arrive au même moment, c'est un petit peu malheureux parce que du coup on se dit on a un petit peu l'impression de lire un petit peu, je dirais, la même chose. Mais je trouve que dans Earth 2 c'est encore mieux. Je sais pas, je trouve ça vachement vachement bon. J'étais vachement accroché. Et c'est pour ça que je me dis tout à l'heure, mais pourquoi j'ai donné mon coup de cœur à Velvet? Alors finalement, j'ai peut-être même préféré ce Earth 2 à Velvet.
Finalement,
coup de cœur ex aequo, j'ai envie de dire, cette semaine. Non, parce que c'est vraiment très très bon, quoi. C'est vraiment très très bon. Je lirai la suite avec grand plaisir.
Je rattrape mon retard, moi. J'ai une dizaine de numéros de retard et...
Ouais.
Mais moi, je n'ai pas encore attaqué le run de Tom Taylor, pour ma part. Bon, il y a que deux épisodes pour le moment, donc ça va.
Alors, ça se lit rapidement. C'est vrai que c'est assez fluide. En même temps, c'est pas mauvais.
C'est
enfin, je veux dire,
c'est
oui,
bien,
voilà.
Fluide ne veut pas dire inintéressant.
Ouais. Ça veut pas dire inintéressant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que bon, voilà, c'est pas la lecture malheureusement. C'est pas 10 minutes de bonheur. C'est même un peu moins, quoi. C'est bon. Voilà. Ça se lit vite. Mais c'est très bon, et oui, il y a un gros, gros, gros côté Irredeemable, mais pas dans le sens pompage du terme, genre il a copié. Non, non, c'est vraiment dans l'écriture, dans le ton, dans la situation, c'est très intéressant. J'ai vraiment envie de savoir comment ils vont faire pour se sortir de cette situation, et voilà. Très bien.
En tout cas, je te remercie énormément pour cette vanne sur les bouteilles d'eau. Oui. Demain, je n'irai pas bosser sans penser à toi.
Eh ben, écoute, je sais pas si tu dois me remercier pour ça, mais...
Je pense que ça va me faire marrer tout seul demain.
Le problème, voilà. C'est si quelqu'un te demande pourquoi tu rigoles et que tu dois lui ressortir cette vanne, mon Dieu.
Oula.
Je ne réponds pas de... Enfin voilà, je n'ai aucun droit d'auteur dessus.
Je regarderai les yeux hagards de la personne ne pas comprendre et je rigolerai. Encore plus.
Ah bah t'as Superman déviant de Vitalo.
un gros bail hein, pour ce Hearthstone numéro 18.
Ouais, totalement.
On va terminer par notre liste des TP de la semaine. Et alors la grosse case de dit, Bruno.
Ah.
Puisque sort en hardcover To Hell You Ride, Lance Henriksen.
Ce truc que je
n'ai toujours pas comprise, hein, d'ailleurs, quelques mois plus tard, du premier épisode. Ça sort $25, enfin $24.99. Ah,
oui. Si vous voulez découvrir ces fameux Indiens qui envoient des flèches dans l'air, c'est assez space.
Pardon. Voilà, c'est sorti. Donc, c'est du hardcover. Vous avez l'ensemble de la mini-série pour $25. C'est chez Dark Horse, bien évidemment.
Ce serait con de le rater.
C'est sûr. Continuons chez DC avec la sortie de Gears of War TPB numéro 3 avec les épisodes 14 à 24 qui signent la fin de la série et qui comblent le trou entre Gears of War 2 et Gears of War 3. C'est au prix de $20.
Et Gears of War qui est en promo sur... Enfin, le premier est gratuit. Et le second est à 10€ sur Xbox 360. Voilà, donc en plus je fais le lien avec les jeux vidéo, c'est formidable.
Gratuit puisque c'est, il fait partie des Games with Gold, hein, comme vous avez chaque mois deux jeux gratuits si vous êtes un abonné Gold sur le Xbox Live.
C'est vrai, oui, il faut être abonné.
D'ailleurs, je me demande hein, pour les possesseurs de la Xbox One qui auraient déjà craqué, est-ce que ces jeux-là sont disponibles sur Xbox One ? Parce que j'avais entendu parler de non-rétrocompatibilité.
Ah non, c'est pas rétrocompatible.
Donc t'as un compte Xbox Live, même si c'est sur, enfin Xbox Live Gold, si tu as une Xbox One et tu l'as dans le cul en fait.
Après j'en ai pas une console, mais il me semble que non, mais, c'est vraiment séparé. Voilà, c'est le même compte Live, mais et tu profites pas du jeu gratuit.
Tu payes le même prix et t'as pas le jeu gratuit. Bon, génial.
J'ai cru que Steve disait pour ceux qui l'ont déjà craqué. Je me suis dit oh quand même.
Déjà.
Quand même,
non, pour ceux qui ont déjà craqué pour acheter.
Oui, bien sûr, oui, bien sûr.
Xbox Live sur la, enfin Xbox One, pardon, sur laquelle j'ai découvert que certains jeux avaient des micro-paiements à l'intérieur. Donc tu payes ton jeu plein pot et tu as en plus des micro-paiements à l'intérieur si tu veux.
Ouais, mais c'est pas que sur Xbox One, ça. J'ai vu sur PS4, tu peux acheter une voiture pour 160€. Sur Gran Turismo 6.
Ouais, non, mais là, c'est même pas du DLC. J'ai vu ça notamment avec Rise Son of Rome, où tu peux, si tu veux acheter des compétences, soit tu farmes, tu fais de l'XP, tu fais tomber de l'or, etc., en tuant du mob, soit tu payes. Ouais, et tu peux avoir des points de compétences. Mais des micro-paiements, je veux dire, dans un jeu que tu as payé, ça se comprend sur un jeu gratuit, sur le net, ou truc comme ça, mais dans un jeu que tu as déjà payé 70€, putain de merde, quoi. Des micro-paiements
en plus.
C'est
fréquent, ça.
Et en plus, il y aura des DLC, j'imagine. Enfin, c'est se foutre de la gueule du monde. Bref, ce n'est pas le sujet. Mais ça me faisait gueuler, voilà. C'est mon bash que je place ici au Comics Weekly.
Voilà.
Au passage.
On gueule pas assez, en fait, je pense.
Ouais, non, on n'est pas assez grognon, je trouve. Continuons avec la sortie du troisième TPB de Nightwing. Death of the Family, c'est le nom de ce TPB, au prix de $17, avec les épisodes 13 à 18 de Nightwing, ainsi que le Batman 17, hein, qui permet de faire le lien avec Death of the Family. Évidemment, c'est écrit par Tom DeFalco, avec des dessins d'Eddie Barrows, entre autres.
Ah oui, d'accord. Je pensais que c'était Kyle Higgins qui était resté. Au fait, c'était déjà DeFalco.
Et voilà, une série qui ne sort malheureusement pas en français, sauf pour les épisodes liés intrinsèquement avec Death of the Family.
En trade, enfin en relié. Quoi.
Attends. Oui, c'est vrai, je suis con. Oui, j'aurais pas dû le mettre dans cette sélection de TPB, mais c'est pas grave.
Batwing, à chaque fois je confonds avec Nightwing. C'est pour ça que je te dis Kyle Higgins. D'accord.
Mais non, mais c'était Nightwing.
Ah, c'est Nightwing.
Ah, le méga fan.
Mais Nightwing sort chez Urban en
album. Mais j'ai oublié.
Et voilà, c'est pour ça que
je
le fais.
C'est moi qui me suis planté. Ah, c'est n'importe quoi.
Attends, mais t'es sûr qu'on fait une émission, on parle de VO ? On devait pas faire un Comic City VF, là ?
Ah non, nous sommes sur un spécial série, là.
Ah bah oui.
Effectivement.
Person of Interest.
Continuons avec Swamp Thing, qui a eu sa série, d'ailleurs, rappelons-le.
Et un film, je crois.
Et oui, un film de Wes Craven, hein, le premier d'ailleurs. Saga of the Swamp Thing, TPB Book 5, pour relire tout le run d'Alan Moore et de Rick Veitch au dessin. Les épisodes 51 à 56 sont réunis dans ce TP au prix de $15. Continuons avec, là, du gros gros lourd, du gros gros qui tâche, Tom DeFalco, Joe Bennett, mais aussi Rob Liefeld, qui bizarrement n'est pas crédité dans la sollicitation, alors que pourtant il est bien là. C'est Savage Oakman TPB volume 2, énorme TPB au prix de $20, avec les épisodes numéro 0 ainsi que les épisodes 9 à 20.
Ouais.
Énorme TPB.
C'est vrai.
Pas cher, c'est peut-être parce que ça vaut pas grand-chose.
Pas cher.
Oh, c'est dit avec tellement de classe. Pour les fans de RPG, je mentionne la sortie de deux titres Dungeons & Dragons qui sortent chez IDW. Nous avons le Dungeons & Dragons Cutter Hardcover qui vient de... La mini-série vient de s'achever le mois dernier, ou il y a deux mois, je ne sais plus. Le hardcover sort maintenant au prix de $25, une histoire de R.E. Salvatore, quand même.
Pourquoi ça s'appelle Cutter, juste, c'est pour savoir.
C'est le nom de la mini.
D'accord, ok. C'est pas une édition genre en lambeau, quoi.
Non, c'est le nom de la mini, hein. En lambeau, faites-vous rembourser. Donc R.E. Salvatore est au scénario, hein, quand même. Grand scénariste, hein, notamment de toute l'époque Drist, entre autres. Pour les connaisseurs, ça leur parlera. Et puis l'autre mini-série, ça s'appelle Forgotten Realms, TPB, 20 dollars, pardon. Et c'est scénarisé cette fois-ci par Ed Greenwood, autre grand scénariste de la franchise Dungeons & Dragons. Vous ne comprenez pas de quoi je parle, hein, bien sûr, messieurs.
Oh oui, alors là...
Non, mais c'est pas grave. Hein, je veux dire, en même temps, c'est intéressant. Tu parles en français
S'il y a vraiment deux auteurs à connaître sur la franchise Donjons et Dragons, en tout cas en roman, c'est vraiment R.E. Salvatore et Ed Greenwood qui sont vraiment les deux architectes, ceux qui ont créé les plus grosses histoires et les plus mémorable finalement.
Ouais, c'est les Jeff Jones et Bendis de l'univers.
Y en a un qui on doit le personnage de Drist et l'autre le personnage d'Elminster. Si vous avez joué à Baldur's Gate un jour, vous connaissez ces deux personnages.
C'est même une insulte ce que je viens de dire. C'est Stan Lee et Steve Ditko plutôt.
On passe chez Image avec la sortie de Ghosted, premier TPB. Ah, série de Joshua Williamson avec des dessins de Goran Suzuka. C'est au prix de $15 avec les 5 premiers épisodes de la série.
Série que j'avais commencé, qui était sympathique, effectivement. Ça vaut le détour.
Ouais, Bruno aussi, hein, je crois que tu l'avais
vu. Ah oui, c'est très sympa, ouais. Tout à fait.
Le seul reproche est peut-être que ça ne sort pas au prix de $10.
Il me semble qu'il est à $10. Je l'ai eu en boutique et il me semble que
C'est peut-être une erreur sur le site que j'ai, mais la sollicitation que j'ai le mentionne à $15. Donc bon. À vérifier. Une autre série qui nous avait laissé un petit peu perplexe quand on l'avait lu, c'était une série de Ted McKeever, Miniature Jesus, sortie en TPB au prix de $17. J'ai envie de dire tenter.
Feuilleter d'abord.
Ou pas. C'est vraiment très particulier. Je me rappelle de la review qu'on avait faite avec Flo.
À mettre au pied du sapin si vous êtes dans une famille un peu catho. Je pense que ça leur fera super plaisir.
C'est sûr. Autre chose sortie chez Image, c'est le TPB de Storm Dogs qui sort au prix de $17. Cette série de David Hine avec des dessins de Doug Braithwaite, les 6 épisodes de la mini sont réunis au prix de $17. J'avais déjà dit le prix, je crois.
Bref, je sais plus, mais en tout cas, ouais. Mais un titre que je n'ai pas essayé, mais dont j'ai beaucoup entendu parler. Donc.
Magnifique.
D'accord.
Magnifique. Autant un très bon scénario que des dessins superbes. Et là, en plus, vous l'avez en TP et vous ne subirez pas les retards. Passons à de l'omnibus de Fantastic Four. Deux omnibus de Fantastic Four sortent cette semaine. Vous avez le premier omnibus, c'est Fantastic Four par John Byrne au prix de $125 avec Avengers, n'importe quoi. Fantastic Four 261.
Avec Avengers, Spider-Man, Silver Surfer, tout sauf Fantastic Four, c'est vrai.
Le Fantastic Four 261 à $295, l'annual 18-19, le Alpha Flight 4, l'épisode de Thing, la série solo de la chose, hein, tout simplement, 10 et 19, Avengers Annual 14 et du matériel provenant de Secret Wars, Epic Illustrated, What If, What The, etc., etc. Donc grosse édition, $125 pour relire ce qu'a fait John Byrne sur les 4 Fantastiques.
Ah, période. Mais période très riche, ouais. L'un des meilleurs runs des 4 Fantastiques, diront certains, et peut-être à raison. Et puis beaucoup à lire. C'était des épisodes très riches, très très amples, très verbeux, mais dans le bon sens du terme, hein. Il y avait énormément d'idées. Franchement, c'est l'un des meilleurs travaux de John Byrne.
L'autre omnibus des Fantastic Four à sortir cette semaine, c'est le tout simplement appelé Fantastic Four Omnibus Hardcover Volume 2. C'est une nouvelle édition, puisque ça avait disparu un petit peu, ça s'était arraché comme des petits pains. Ça reprend l'épisode 31 à 60, ainsi que l'annual 2 à 4, et c'est au prix de $100. Voilà des bonnes idées de cadeaux pour Noël.
Alors du Straczynski, du... Non, pas du tout.
C'est non,
du
là, Stanley, on est sur du Stanley et du Jack Kirby, hein, vraiment... donc 31 à 60, vous aurez l'arrivée de Galactus, le début des Inhumains, etc., etc. Enfin voilà.
Qui arrive encore, en tricycle hein, dans sa première apparition. Galactus.
Exactement. Vous avez le
tricycle de l'espace.
Le début du Black Panther aussi notamment.
Qui arrive en ski.
Eh oui, oui. Tout ça, bien sûr, ou pas.
Voilà. À vérifier. Donc faut acheter le bouquin pour savoir.
Pour les fans de Richard Rider, j'en parlais tout à l'heure, Nova Classic TPB volume 2 au prix de $30 avec à l'intérieur Nova 13 à 19, la série de 1976. Je précise parce qu'il y a une deuxième série dans les années 90. Nous avons les Defenders 62 à 64, la série de 72, le Fantastic Four Annual 12 et le Marvel Twin One Annual numéro 3. Voilà. Pour ceux qui ont envie de retrouver Richard Rider et pas cette espèce d'immonde Nova que l'on a actuellement. Ça c'est fait. Thor par Walter Simonson, TPB volume 3 au prix de $30 avec les épisodes 357 à 363 de Thor ainsi que la mini-série Balder the Brave en entier, hein, donc la mini-série en 4. Du Walter Simonson sur Thor, ça ne se refuse pas. Oui, c'est définitif. Et enfin, on termine toujours dans ces TP qui reprennent les runs d'un auteur avec le Wolverine par Aaron, Complete Collection TPB. Ça vaut $35 et ça va reprendre les travaux de Jason Aaron, bien sûr, sur le mutant Griffu. Wolverine 56, 62 à 65, du matériel du 73-74. La mini-série Manifest Destiny en entier, 1 à 4. La mini-série Wolverine Weapon X, numéro 1 à 5. Non, pardon, c'est pas la... Si, c'est la mini-série, pardon. Autant pour moi. Et enfin, du matériel de Wolverine, numéro 175. Si vous voulez redécouvrir ce qu'a fait Aaron sur Wolverine, un run, j'ai envie de dire, en dents de scie, qui commençait plutôt pas mal et qui a fini un peu moins bien, à mon goût, mais ça reste que mon goût.
Ouais. Mais bon, c'est en tout cas l'un des personnages Marvel qui le tient le mieux. C'est quand même pas mal, quoi, globalement.
Il y a de très bons épisodes, il y en a d'autres qui sont moins bons. Après, ça dépend des goûts de chacun.
Ouais. Moi, je me rappelle, j'avais bien aimé celui dans l'hôpital psychiatrique et toi, peut-être moins. Non.
J'avais pas trop apprécié ça. J'avais beaucoup aimé l'épisode hommage à la mort de Nightcrawler, notamment. Là, ce qu'on va retrouver, c'est notamment l'arc avec Mystique, qui lançait notamment son run. Cet arc où on retrouvait Wolverine et Mystique ensemble dans les années 20, notamment.
Oui, non, ça, c'était excellent. Get Mystique.
Voilà.
Très bon.
C'est tout pour notre grosse liste de TPB. Comme je dis, il y a de quoi mettre sous le sapin ou même à s'offrir avant Noël, hein, tout simplement.
Ah ben même soutenir le sapin, là, en fait. Le sapin ne tombera plus avec tout ça en dessous.
Vous pouvez même faire un sapin en TPB, si vous voulez. Ouais. Et essayer de mettre des guirlandes autour. Voilà, vous avez l'image en tête.
Ouais, c'est... Non, mais tu proposes des trucs super fun, dis donc. Avec toi, on s'ennuie pas pendant les vacances.
Je ne sais comment répondre à ça à part que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter et bien sûr nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr et nous soumettre vos autres idées de sapin de Noël.
Voilà, et de bricolage, ouais. D'autres idées de bricolage.
N'importe quoi. Et vous retrouvez bien sûr toutes les anciennes émissions sur le site ou sur iTunes en tapant sur la table et en faisant un bruit absolument ignoble en même temps.
Ah non, on n'a pas entendu, tiens.
Bah tant mieux. Je sais pas pourquoi, une petite tape comme ça sur la table.
Bam.
C'est au néo-coteur du café. C'est quand tu m'as appelé patron tout à l'heure, je me suis dit, allez Dédé, serre-nous en deux. C'est resté. Ouais, trois, oui, pardon, je sais pas pourquoi deux. Deux chacun.
Ah oui, au moins.
Il est temps de conclure apparemment.
Hein. Il est temps.
Ça se barre en live. On se retrouve donc mardi pour le Weekly News et vous nous retrouvez aussi samedi prochain pour le prochain Comics Weekly avec la suite des sorties du mois de décembre. Un mois assez riche hein, finalement, on a de grosses sorties attendues et on va continuer aussi sur notre lancée Inhumanity.
Tout à fait. Et tu disais ça se barre en live, on y sera bientôt en live.
Le 20 décembre, et
rappelons-le.
Oui, réservez vos dates. C'est le vendredi 20 décembre à partir de 21h, le grand live de Comic City pour cette fin d'année. Fêter les 5 ans avec moult marinières cadeaux. Je vais la refaire, hein, tu vois, je vais la replacer. Réutilisation de blagues, plein de cadeaux à gagner dans la soirée et surtout les Comic City Awards, tradition de chaque année.
Qui seront peut-être cette année préparés. Ou pas.
Ou pas. On verra.
On verra.
Ou pas. Voilà, à la semaine prochaine, et comme d'habitude, portez-vous bien.
À bientôt.
Ciao, ciao, ciao.